VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mercredi 10 février 2016. Au sommaire ce soir.
Un double attentat fait plusieurs morts dans l'extrême nord du Cameroun. Boko Haram est pointé du doigt.
Présidentielle au Niger, toujours pas de bonnes nouvelles pour l'opposant Ama Amadou. La Cour constitutionnelle refuse de lier sa candidature à sa condition actuelle de prisonnier.
La Cour constitutionnelle indique aussi que son arrêt validant sa candidature n'a aucun effet sur la détention de M. Ama Amadou et qu'enfin, elle n'a aucune compétence.
Réaction au Tchad à la promesse du président Idriss Déby Itno d'introduire la limitation des mandats et le fédéralisme.
Nous parlerons aussi de la présidentielle au Congo-Brazzaville.
Pour parler de paix sur la Syrie, la délégation de l'opposition accepte de se rendre à Genève.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au moins 6 civils ont été tués, une trentaine blessés dans un double attentat suicide à Ngechewe, village de l'extrême nord du Cameroun. Boko Haram est resté très actif dans cette région frontalière du Nigeria. Idriss Fall.
Au moins 2 jeunes filles kamikazes se sont fait exploser ce matin après une veillée funèbre dans le village de Ngechewe. Selon un responsable de la police, un garçon âgé de 6 ans, un adolescent de 15 ans et un membre du comité local de vigilance font partie des victimes. Les nombreux blessés ont été évacués vers l'hôpital régional de Maroua. C'est le 5e attentat suicide dans l'extrême nord du Cameroun depuis le début de l'année. Le 18 janvier, 4 fidèles ont déjà été tués dans une attaque à la mosquée de Ngechewe. C'est dans ce même village proche de la frontière avec le Nigeria qu'un prêtre français, le père Georges Vandenbosch, a été enlevé en novembre 2013 et a été libéré après 50 jours de captivité. Cet enlèvement a été attribué à Boko Haram, dont le chef, Aboubakar Shekau, a annoncé son allégeance au groupe État islamique.
Procès de Hissène Habré, le procureur du tribunal spécial africain qui juge l'ex-président tchadien à Dakar, requiert sa condamnation pour crime contre l'humanité en tant que véritable chef de service de l'appareil de répression sous son régime entre 1982 et 1990. Il a également demandé au tribunal d'entrer en voie de condamnation pour crime de guerre et viol sans préciser de peine.
Au Niger, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt concernant l'affaire Ama Amadou. Les juges ont estimé que la validation de sa candidature à la présidentielle n'a aucun effet sur son emprisonnement et que sa mise en liberté provisoire ne relève pas de sa compétence. La Cour constitutionnelle était saisie par 12 députés de l'opposition. Détail avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Dans cet arrêt daté du 9 février 2016, la juridiction constitutionnelle indique qu'il n'y a pas d'identité de situation entre le candidat Ama Amadou et les 14 autres candidats et par conséquent pas de rupture d'égalité entre eux. La Cour constitutionnelle indique aussi que son arrêt validant sa candidature n'a aucun effet sur la détention de M. Ama Amadou et qu'enfin elle n'a aucune compétence pour enjoindre à un juge pénal de prononcer la liberté provisoire d'un candidat en détention. La requête des 12 députés de l'opposition qui a suscité cet arrêt a été introduite à la veille de l'ouverture de la campagne électorale dans l'optique pour les requérants d'obtenir de la Cour constitutionnelle une décision qui permettra à M. Ama Amadou de sortir de prison et battre campagne. Cet arrêt sonne donc comme un échec pour eux à 10 jours du scrutin. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Nouveau remaniement ministériel en Mauritanie. L'agence mauritanienne d'information rapporte le départ de 5 ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de l'économie. Aucune explication n'a été donnée.
Human Rights Watch appelle l'Ouganda à déclarer publiquement que les forces de sécurité ont l'obligation légale de protéger le droit de manifester pacifiquement dans les jours qui précèdent l'élection du 18 février. Les précisions de Tatiana Mousseau.
L'ONG, basée ici aux États-Unis, a fait état mercredi d'une augmentation inquiétante de menaces implicites et explicites contre tous ceux qui pourraient protester contre le président Yoweri Museveni, qui brigue un autre mandat. Human Rights Watch rapporte notamment les propos de Kazule Lumumba, un responsable du parti au pouvoir, qui a récemment dit à la population en Ouganda, une langue locale, « Si les gens protestent contre les résultats des élections, l'État va tuer vos enfants ». Des groupes de défense des droits humains ont recensé des cas d'enfants tués par balle par les forces de sécurité lors de manifestations publiques en Ouganda, dont un de 2 ans en 2011 et un autre de 13 ans en 2009. Le président Museveni dirige son pays d'une main de fer depuis une trentaine d'années et est en course cette année pour un nouveau mandat de 5 ans. Le dirigeant ougandais n'a pas pris part au premier débat politique précédant le scrutin du 18 février et il n'est pas clair s'il participera au second, prévu le 13 février.
On connaît désormais l'identité d'un des chefs de l'armée de résistance du Seigneur, capturé lundi en Centrafrique. Il s'agit d'Okot Odek, un des principaux commandants de la rébellion ougandaise. D'après une source au sein de la gendarmerie centrafricaine, citée par l'AFP, il vient d'être arrêté et remis aux forces américaines. Une faction de l'ex-rébellion de la Seleka, le Front populaire pour la renaissance de Centrafrique, avait annoncé sa capture. Mais pour Invisible Children, une ONG, il pourrait s'être tout simplement rendu. L'ONG américaine estime possible que le chef de la LRA, Joseph Kony, a l'ordre de le tuer. Les autorités centrafricaines affirment détenir une liste des chefs de la LRA.
En Libye toujours, toujours dans l'attente d'un gouvernement d'union nationale, le Parlement reconnu internationalement a accordé un nouveau délai. Le Conseil présidentiel, composé de factions rivales, a donc jusqu'à dimanche pour présenter son équipe. C'est l'identité du futur ministre de la Défense qui retarde l'annonce du gouvernement, indiqué à l'AFP une source du Conseil présidentiel. Mais la solution pourrait être de maintenir ce poste vacant dans un souci de préserver le consensus.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le principal groupe d'opposition en Syrie a accepté de se rendre à Genève, où l'ONU a ouvert vendredi des pourparlers de paix pour mettre fin à 5 ans de guerre dans le pays. L'opposition a toutefois émis quelques conditions, Salwa Jafari.
Les conditions, que le siège des villes syriennes soit levé, que les bombardements cessent et qu'on laisse passer l'aide humanitaire. C'est ce qu'a annoncé le coordinateur général de la coalition de l'opposition syrienne, Riyad Hijab, lors d'une conférence de presse. « Nous sommes tombés d'accord sur la nécessité de mettre fin de manière urgente aux souffrances qu'endurent les Syriens », a ajouté Philippe Hamon, le ministre des Affaires étrangères britannique. Plus de 500 personnes, dont des dizaines de civils, ont été tuées depuis le début de l'offensive lancée le 1er février par le régime syrien, avec le soutien de l'aviation russe contre les rebelles dans la province d'Alep, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le régime a repris plusieurs secteurs dans le nord de la province d'Alep et assiège désormais les rebelles dans les quartiers est de la ville, où habitent encore quelques 350 000 civils. L'ONU évalue à 31 000 le nombre de Syriens, dont 80% de femmes et d'enfants, ayant fui leur foyer dans la province d'Alep depuis le début de l'offensive.
Les frappes russes autour de la ville syrienne d'Alep contre des groupes d'opposition et des civils favorisent directement l'essor du groupe État islamique, a jugé un haut responsable américain la veille d'une conférence internationale sur ce conflit. Ce que la Russie est en train de faire favorise directement l'État islamique, a accusé l'émissaire spécial du président américain Barack Obama pour la coalition internationale anti-djihadiste Brett McGurk, qui témoignait devant la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.
Le chef de l'opposition israélienne, Isaac Herzog, a déclaré qu'un accord de paix était impossible en ce moment et que son pays, Israël, devait commencer à prendre des mesures unilatérales pour séparer Israéliens et Palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie occupée. Le chef travailliste de l'Union sioniste, principale force d'opposition au gouvernement de droite de Benjamin Netanyahou, présentait ses nouvelles propositions à la presse étrangère à Jérusalem, alors que les territoires palestiniens et Israël sont secoués depuis plus de 4 mois par une nouvelle vague de violence. Et on revient sur la Syrie, Morgane.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a encore haussé le ton pour dénoncer en termes très virulents le soutien militaire des États-Unis à ses ennemis kurdes de Syrie, au risque de provoquer une crise entre les deux alliés. Manifestement très énervé, et dit l'AFP, M. Erdogan a accusé sans nuance les Américains d'avoir fait de la région une mare de sang en fournissant des armes aux partis de l'Union démocratique et à ses milices. Les uns les unités de protection du peuple qu'il considère comme des organisations terroristes.
En France, Laurent Fabius quitte son poste au Quai d'Orsay pour assumer la présidence du Conseil constitutionnel. Le président François Hollande a fait la proposition aujourd'hui avant un remaniement éventuel de son cabinet. Fabius, un ancien Premier ministre, a dirigé le ministère des Affaires étrangères depuis 2012. Il prendrait sa nouvelle fonction au début du mois prochain, après ratification parlementaire. Parmi ses remplaçants possibles, on parle de la ministre de l'Environnement Ségolène Royal et de l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault.
Politique américaine, le démocrate socialiste Bernie Sanders et le milliardaire républicain Donald Trump ont remporté une écrasante victoire hier dans la primaire du New Hampshire, telle que prévue par les sondages. 60% pour Sanders contre 38% pour Madame Clinton, tandis que Trump a devancé John Kasich de 19 points.
Nous y reviendrons en seconde partie d'émission. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
En RDC, la production de cuivre a baissé en 2015 après 5 années de hausse ininterrompue, selon les chiffres de la Chambre des mines congolaises, repassant en dessous du seuil symbolique du million de tonnes. Selon la Fédération des entreprises du Congo, le secteur minier de la RDC fait face à un environnement difficile. L'année 2015 ayant été marquée par une chute des prix des métaux et matières premières, la plus forte depuis la crise économique mondiale de 2008-2009. Si la RDC a plutôt bien résisté jusqu'à présent à cette nouvelle donne mondiale, l'activité économique du pays devrait être fortement impactée en 2016. En Côte d'Ivoire, le kilo de l'anacarde ou noix de cajou, bord champ, bien séché, trié et ne comportant aucune matière extérieure, a été fixé aujourd'hui mercredi à 350 francs CFA contre 275 l'année dernière par le gouvernement ivoirien. Un prix plancher obligatoire pour le premier producteur mondial de cajou. En Tunisie, la vente de biens confisqués à l'ex-dictateur Ben Ali et à son clan a rapporté près de 450 millions d'euros à la Tunisie depuis 2011. Après la révolution, la Tunisie a saisi des entreprises, des biens immobiliers, des voitures de luxe ou encore des bijoux appartenant à Ben Ali, à son épouse et à leurs proches, dont de nombreux hommes d'affaires. La vente de ces biens a rapporté 1 milliard d'euros, mais 500 millions ont dû être utilisés pour payer les dettes du clan Ben Ali.
La Minute Éco, merci Claire.
Nous passons tout de suite à l'actualité sportive avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Gabi.
On commence au Maroc, le sélectionneur national Badou Zaki, limogé.
Oui, la fédération est parvenue à un accord avec Badou Zaki, amenant à résilier son contrat par consentement mutuel. Et Hervé Renard pourrait reprendre la tête de la sélection marocaine, c'est le nom qui circule maintenant.
Égypte, Zamalek limoge son entraîneur Mido.
Le club de Zamalek a limogé son entraîneur Ahmed Hossan Mido, c'est l'ancien international, après une défaite hier dans le classico égyptien contre son rival de toujours Al Ahly. Et Zamalek a perdu 2-0.
Phase préparatoire pour la Coupe d'Europe de 2016. Et rencontre Suède, Pays de Galles.
Oui, le Pays de Galles se déplacera en Suède le 5 juin à l'occasion d'un dernier match de préparation à l'Euro 2016 entre les deux stars, Zlatan Ibrahimovic et Gareth Bale qui jouent à Real Madrid.
Et quelle est cette affaire de faillite éventuelle à la FIFA, Eric?
Oh, Gabi, c'est une hypothèse alarmiste évoquée par un candidat à la présidence de la FIFA, c'est le Cheikh Salman, l'un des favoris d'ailleurs, et qui l'un des favoris pour remplacer ou succéder à Sepp Blatter. Mais malgré des pertes estimées à 90 millions d'euros sur l'exercice 2015, des experts de l'instance suprême du football affirmaient que la FIFA peut largement, Gabi, affronter ses échéances financières sans hypothéquer ni son avenir ni ses importances. Réserve et Blatter a fait du bon boulot.
Et Jeux Olympiques 2016, l'entraîneur de l'équipe olympique britannique veut une préparation hors du Brésil. Est-ce que c'est à cause de Zika?
Oui, c'est à cause de Zika et l'entraîneur souhaite que le camp d'entraînement de la Grande-Bretagne se passe en dehors du Brésil en raison de l'épidémie de Zika, comme vous le dites.
On parlera de la NBA un peu plus tard. Merci Eric Manirakiza pour cette page sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, c'est Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac. On va passer tout de suite au dossier du jour, Morgane.
Oui, notre première escale ce soir, le Tchad. Le président Idriss Déby Itno a été investi candidat à l'élection présidentielle d'avril 2016 pour la cinquième fois consécutive. Il s'agit de l'unique candidat du MPS, le Mouvement Patriotique du Salut, parti au pouvoir depuis 25 ans. Il promet une modification de la Constitution pour répondre aux aspirations du peuple. Déclaration qui suscite des réactions. Le point à N'Djamena avec André Konmadjingar.
Investi candidat à l'élection présidentielle d'avril 2016 en dépit des remous sociaux ces derniers temps en N'Djamena comme à l'intérieur du pays, Idriss Déby Itno a fait grand déballage. À la surprise de tous, même de ses militants, il entend organiser une large consultation nationale pouvant aboutir à la refonte de la constitution tchadienne s'il est réélu pour un cinquième mandat. Cette remodification de la loi fondamentale vise à réintroduire la limitation du nombre de mandats présidentiels et revoir la forme de l'État en optant pour l'État fédéral. Car, selon Déby, il n'est pas question de demeurer dans un système où l'alternance au pouvoir devient difficile.
N'ayons pas peur de mots. Je crois que nous pourrons sérieusement envisager de tendre vers un système du type fédéral pour mieux responsabiliser les citoyens et améliorer fonctionnement des services publics. La fédération n'est pas une bavière de Yorongar.
En mission dans son fief au sud du Tchad, l'opposant historique de Déby, Ngarledi Yorongar, coordonnateur du FAR, parti Fédération Action pour la République, sourit en pointe et déclare qu'en prônant le fédéralisme, Idriss Déby Itno vient d'épouser l'idéologie politique qu'il porte depuis plus de 36 ans.
Je le remercie beaucoup pour avoir rallier le phare armes et bagages et de soutenir ainsi par conséquent la candidature de phare aux élections présidentielles. Déby sait que le slogan fédéraliste gagne du terrain. Donc, il faut changer de fusil d'épaule. Modifier la constitution pour lui signifie ériger une vice-présidence qu'il va confier à son fils pour terminer son mandat. Parce qu'il a une santé chancelante et il ne terminera peut-être pas son mandat en question, mais les Tchadiens ne sont pas dupes.
Pour la société civile, si Déby veut l'alternance, il doit démissionner et non divertir le peuple tchadien en annonçant la modification de la constitution. Younous Mahadir est le vice-président de l'Union des syndicats du Tchad.
La constitution, c'est lui-même qui l'a révisée pour ses intérêts personnels. Maintenant, il va la réviser pour revenir sur la même chose. Ça veut dire qu'il se met carrément en porte-à-faux avec lui-même. Du fait qu'à un certain moment, il ne voulait pas l'alternance. Maintenant, il lui arrive qu'il veut maintenant l'alternance. On ne peut plus comprendre cet homme-là. Mais nous avons sorti un manifeste qui est clair. Déby a échoué partout et il est totalement disqualifié. Par conséquent, il doit démissionner.
André Kodumadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Washington Forum cette semaine, le chômage chez les jeunes en Afrique. Les diplômés affichent un taux de chômage supérieur à celui des jeunes qui ne sont pas allés à l'école. De la Tunisie au Tchad, ce manque d'emploi est-il une bombe à retardement pour la société? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Au Congo-Brazzaville, le convoi de Jean-Marie Michel Mokoko, candidat à la présidentielle du 20 mars prochain, a été hier la cible de jets de pierre et de gaz lacrymogène, peu après son retour à Brazza venant de Bangui. L'ancien chef d'état-major et ancien conseiller spécial du président Denis Sassou Nguesso a été chahuté dès sa sortie de l'aéroport. Pour les proches du général Mokoko, cet accueil mouvementé est le signe que le pouvoir n'est pas prêt à organiser une élection apaisée. Idriss Fall a joint Trésor Chardon Zilakende, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, qui se trouvait hier à l'aéroport de Brazzaville.
Hier, dans le cadre de mon travail, j'étais donc à l'aéroport pour prendre un peu la température sur ce qui devait se passer suite à l'arrivée du général Jean-Marie Michel Mokoko. il y a eu des incidents à l'aéroport. Certains membres de la délégation qui sont venus l'accueillir à l'aéroport ont été violemment agressés par les agents de la police. Violemment agressés, battus, puisqu'il y a eu des blessés.
Le général Mokoko, c'est l'ancien chef d'état-major de Sassou Nguesso, c'est son ancien conseil spécial.
C'est un ancien collaborateur qui a beaucoup contribué pour le président Sassou. Mais là, il a décidé de se présenter à l'élection présidentielle. Il devient donc adversaire du président de la République. C'est un droit légitime de décider d'être candidat ou pas.
Quelle est l'atmosphère politique globale? Il y a d'autres candidats de l'opposition qui veulent déboulonner Sassou Nguesso, non?
Actuellement, il y a un calme apparent, mais nous avons les indices qui montrent que le pays risque de plonger dans une période de crise aiguë. Cela nous inquiète parce que les droits humains, en ce moment-là, sont en danger.
Et tous les opposants qui avaient été arrêtés ou bien mis en résidence surveillée, est-ce que beaucoup ont été libérés?
Oui, c'est parfait qu'on est là. Et André Okombi Salissa, qui était entre guillemets assigné à résidence de façon manifestement illégale, après le référendum, après la publication des résultats, ils ont été libérés. Mais je vous informe qu'il y a plusieurs opposants qui sont actuellement en état d'arrestation. Il est difficile d'avancer un chiffre exact parce que au quotidien, la force publique, particulièrement la police, est en train de multiplier les actes d'enlèvement et d'arrestation des opposants politiques.
Chardon Zila Kende, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme à Brazzaville.
Cette semaine, les voitures s'invitent dans Vous et nous. Roger nous emmène dans un salon automobile très populaire. Puis nous allons découvrir des voitures qui se conduisent elles-mêmes. Nous irons aussi à Bamako avec Toumani Diabaté, organisateur du festival acoustique Bamako. Isha Serraï viendra nous parler d'une drôle de tradition américaine, le jour de la marmotte. Sadi Bousso du magazine Afrique Numérique nous a préparé une liste des applications à connaître quand on vit en Afrique. Sans oublier nos rendez-vous Facebook et On dit quoi. À bientôt.
Le Cameroun célèbre ce jeudi la journée nationale de la jeunesse, alors que beaucoup de jeunes se posent des questions sur leur avenir. Une semaine d'activité pour parler du chômage et l'insécurité qui font que beaucoup d'entre eux ont perdu confiance en leur pays. Plus de 30 000 étudiants terminent l'université chaque année et moins de 10% trouvent du travail. Un reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka, présenté par Michel Joseph.
Ils sont des milliers de jeunes rassemblés à Tiko, dans le sud-ouest du Cameroun, pour le lancement des activités de la Journée nationale de la jeunesse. Cette année, la 50e édition a pour thème les jeunes, la citoyenneté et la lutte contre l'insécurité pour un Cameroun émergent. Chante malgré le chômage et l'insécurité dans le nord avec des attaques de Boko Haram. Stanley Beke, 24 ans, vient de finir l'université. Son rêve, c'est partir vers un Eldorado lointain, mais les moyens lui font défaut.
C'est vraiment frustrant pour un jeune de terminer les études avec un diplôme en poche et réaliser qu'il n'y a pas de travail dans le pays. C'est pourquoi beaucoup de jeunes sont forcés d'aller à l'étranger. Certains s'enferment dans les cales de bateaux juste pour se retrouver ailleurs. Beaucoup de jeunes veulent quitter parce qu'ils ne voient pas d'avenir dans ce pays.
Pour Jean-Marc Afezim Bafor, président du Conseil national de la jeunesse, le plus grand problème, c'est un système éducatif anachronique mis en place à l'époque coloniale pour former des fonctionnaires. Selon lui, si l'éducation était professionnalisée, le Cameroun formerait des jeunes pour créer des emplois et non pas se bousculer au portillon d'une fonction publique déjà saturée.
On nous dit qu'en Chine, les calculatrices sont fabriquées à partir des écoles secondaires. Nous pouvons faire pareil et contribuer au développement de ce pays. Le chef de l'État parle souvent de développement technologique et nous savons que nous ne pouvons parler d'émergence sans développement industriel et technologique.
Mouté Abidias, directeur général du Fonds national pour pour l'emploi apporte des réponses, c'est-à-dire faire des prêts pour démarrer un business, ouvrir une ferme ou faire de l'élevage. Aussi, son organisme a négocié avec des entreprises pour recruter et former des jeunes dans plusieurs domaines en contrepartie d'un allègement fiscal.
Nous avons 100 000 entreprises au Cameroun. Si la moitié de ces entreprises, c'est-à-dire 50 000 recrutent chacune, juste une seule personne, nous aurons 50 000 emplois cette année. Imaginez si ces entreprises recrutaient 2 ou 3 jeunes, combien ça ferait ?
D'après le site World Factbook, le taux de chômage au Cameroun est de 30%, mais l'Institut national de la statistique avance un taux de 70%. Pour Mounouna Futsu, ministre camerounais de la jeunesse, ces chiffres rendent encore plus vulnérables les jeunes face aux groupes terroristes. La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Nous allons parler maintenant de politique américaine, plus précisément de l'élection primaire dans le New Hampshire, ce petit état du nord-est américain. On revient sur la victoire écrasante remportée par Donald Trump chez les Républicains et Bernie Sanders dans le camp démocrate. Comment expliquer surtout la performance des autres prétendants républicains, en particulier le gouverneur John Kasich de l'Ohio, arrivé en deuxième position avec 16% des suffrages contre 35% pour Trump? Quel pronostic pour les prochains scrutins dans le Nevada et la Caroline du Sud? Nous avons joint notre envoyé spécial Thomas Kabilindi.
Ce n'est pas une surprise parce que les pronostics l'avaient déjà prédit. Quand même, c'est une surprise aussi en même temps parce que c'était le même cas dans l'Iowa et puis il a été vaincu à la surprise générale. Donc, mais finalement, c'était prévu effectivement, ce n'est pas une grande surprise.
Donc les sondages n'ont pas menti. Ce qui a un peu peut-être surpris du côté républicain, c'est la lutte pour la deuxième place qui a plutôt favorisé le gouverneur de l'Ohio.
Tout à fait. Lui, il n'était pas attendu du tout à cette place. Et donc, en fait, c'est lui la grande surprise de la soirée. Même les électeurs avant n'en parlaient pas beaucoup. Et donc, quand il est arrivé en deuxième position, on n'a pas compris comment il a fait. Mais voilà, le résultat est là et donc il a battu les autres, à mon avis, sans qu'ils s'y attendent.
Il pourrait être un bon candidat pour ce qu'on appelle l'establishment républicain, alors que le parti vire complètement à droite.
En fait, dire qu'il a battu campagne, c'est vrai, mais il n'est pas le seul. Tous les candidats, en fait, ont compris que le New Hampshire jouait un rôle important dans leur avenir, dans ses primaires. Et donc, tout le monde y était. Et selon le total qui a été établi par les analystes, ensemble, ils ont passé une année dans le New Hampshire en train de faire campagne. Ça, c'est inédit, c'est historique.
Si la nuit a été mauvaise, Thomas Kabilindi, elle a été pour quel candidat?
À mon avis, elle a été mauvaise pour deux candidats républicains, Marco Rubio, qui est tombé à la cinquième place, et Ted Cruz, qui avait gagné l'Iowa et qui est tombé à la troisième place. Et j'imagine qu'elle a été alors pire pour la candidate démocrate Hillary Clinton. Même si les sondages, effectivement, la donnaient perdante à l'avance, la distance qui est entre elle et Bernie Sanders, elle est énorme. On ne s'attendait pas à ce que ce soit vraiment un tel fossé entre eux.
Donc il va falloir coûte que Mme Clinton remporte la Caroline du Sud, sinon le pari sera encore beaucoup plus difficile.
Ça c'est évident, si elle se fait battre à deux reprises, ça va vraiment être compliqué pour elle.
Merci Thomas Kabilindi, envoyé spécial de la VOA dans le New Hampshire.
C'est la fin de cette édition. À la mise en nom de Lionel Gaïma, présentation Morgan Guerriec et Chérubin Dorsil.
On remercie Tian Wang à la console. Je l'appelle Number One et j'ai mes raisons, Morgan. Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos et vidéos. Posez des questions, mais surtout n'oubliez pas que nous sommes ensemble 24 sur 24 sur notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.